6h, 7h, la matinale écho de Radio Classique avec François Geffrier.
6h30, vous écoutez Radio Classique, voici un nouveau journal.
Avec à la une ce matin des financements supplémentaires et une réforme du financement, le plan du gouvernement pour les EHPAD en difficulté. Le Parlement européen découvre au compte-gouttes des scandales d'espionnage et puis les cas de dingue se multiplient en France.
Juste après ce journal, quel est le point commun entre Taylor Swift, Michel Sardou et les nageurs olympiques? Eh bien, c'est cette salle géante, Paris La Défense Arena, qui les accueille face à 40 000 spectateurs. Sa vice-présidente est avec nous dans Comment j'ai réussi. 7h moins le quart, Quentin Périnel évoque les faramineuses opportunités d'emploi chez les développeurs web dans sa chronique Au Travail. Charles Bonner, 85% des EHPAD publics ont fini l'année 2023 en déficit.
Entre le scandale Orpea qui a entamé la confiance des familles et l'inflation, la situation des EHPAD nécessite une intervention de l'État. Elle est détaillée ce matin dans le Figaro par Fadila Khattabi, la ministre chargée des personnes âgées. Bonjour Nina Droff.
Bonjour.
650 millions d'euros supplémentaires vont être déployés.
Oui, dont 190 millions d'euros alloués aux établissements publics. Cela correspond à une hausse de 5% du financement de l'État aux EHPAD publics. Pour le secteur privé commercial, le budget augmente de 3%. Même chose pour les EHPAD privés associatifs, à condition que les négociations en cours sur les bas salaires aboutissent. Le gouvernement s'engage également à réformer le financement des EHPAD, financement très complexe car il dépend de trois sources différentes, de la sécurité sociale pour la partie soins, des familles pour la partie hébergement et enfin des départements qui financent la dépendance. Le gouvernement suggère donc de prendre en charge la partie dépendance et de fusionner avec la partie soins pour aider durablement le secteur. Une charge financière en moins pour les départements et surtout la garantie pour nos aînés d'avoir un traitement égal, quel que soit leur département, selon Fadila Khattabi. Un appel à candidature a été lancé en mars pour expérimenter ce mode de financement. 10 départements y ont déjà répondu.
Nina Droff, c'était finalement l'une des demandes principales des agriculteurs. Moins de normes et donc plus de simplification. Un projet de loi est présenté en Conseil des ministres aujourd'hui avec plusieurs mesures. La suppression d'ici 2030 des formulaires CERFA, des sanctions allégées pour les chefs d'entreprise ou encore une fiche de salaire plus courte avec une quinzaine de lignes au lieu de plus de 50 actuellement.
On y revient dans le journal de l'économie dans un gros quart d'heure avec le secrétaire général de la CPME. Le Congrès américain adopte l'aide attendue par l'Ukraine.
Après le vote ce week-end de la Chambre des représentants, le Sénat, majoritairement démocrate, l'a validé cette nuit. Dans ce texte, il y a une aide pour Israël, pour Taïwan et donc surtout pour l'Ukraine. 61 milliards de dollars. Joe Biden, le président américain, dit espérer envoyer des armes dès cette semaine. La guerre et les tensions mondiales qui s'invitent aussi dans les coulisses du Parlement européen avec des soupçons d'espionnage. Hier, c'est un assistant parlementaire qui a été arrêté. Assistant de Maximilian Kra, tête de liste de l'AFD allemande aux européennes. Un assistant à la fois membre d'un parti d'extrême droite et espion soupçonné pour la Chine, Diane Berger.
Au mois de janvier, cet assistant parlementaire allemand d'origine chinoise aurait transmis à Pékin des informations sur des négociations et des décisions du Parlement européen. Une situation qui ne surprend pas Paul Charron de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, spécialiste des réseaux d'influence de la Chine.
Alors on a peu de cas, mais ils se multiplient. Alors, au niveau du Parlement, comme au niveau d'autres institutions, tous les lieux de pouvoir sont des cibles potentielles pour les services de renseignement chinois. Le Parlement européen en est une parmi d'autres.
Une parmi d'autres, mais aussi peut-être une plus vulnérable que les autres. Car ce n'est pas la première affaire du genre qui éclabousse le Parlement européen, rappelle Nicolas Ayossi de l'ONG Transparency International.
Il y a eu le Qatargate, mais aussi plus récemment, une série de députés européens qui auraient reçu de l'argent russe. La solution qui est ignorée pour l'instant par le Parlement, c'est la mise en place de règles internes robustes en termes d'éthique.
Lui plaide notamment pour plus de contrôle, plus de transparence et une meilleure protection des lanceurs d'alerte au sein de l'institution.
Diane Berger, la guerre sur le front et ce besoin d'hommes. L'Ukraine suspend ses services consulaires pour les hommes en âge de se battre, pour les contraindre à rentrer au pays et servir dans l'armée. En France, la présidente du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, d'y être convoquée par la police dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme en raison d'un communiqué publié après les attaques du Hamas contre Israël. Israël le 7 octobre dernier.
Radio Classique, il est 6h34 à Béziers. Les moins de 13 ans n'ont plus le droit de sortir entre 23h et 6h.
Trois quartiers concernés pour faire baisser la criminalité, selon son maire Robert Ménard, élu avec le soutien du Rassemblement National. À Nice, le maire Horizon, Christian Estrosi, promet de limiter le mois prochain. Mais du côté des policiers, on y voit surtout une charge de travail supplémentaire. Éric Henry est délégué national Alliance Police.
Encore une mission supplémentaire qu'on demande aux forces de l'ordre. Alors ça permet d'identifier les individus, les jeunes, qui peuvent être considérés comme étant libres eux-mêmes, puis qui fréquentent quelquefois des individus qui peuvent les aspirer, les influencer dans cette spirale délinquante. C'est, je le répète, l'échec d'une responsabilité parentale. On demande de faire, encore une fois, de l'assistanat, de suppléer aux parents et d'endosser le rôle, entre guillemets, de grands frères, mais avec un niveau d'effectif qui n'est pas extensible. Un problème, un événement médiatisé, une annonce politique, et derrière, qui doit s'occuper de cette déclinaison concrète, comme à chaque fois, ce sont les forces de l'ordre.
Trois quarts des vols annulés à Orly demain, 65% à Roissy et Marseille, la moitié ailleurs, la grève des contrôleurs aériens qui demandent des hausses de salaire avec la réorganisation de la surveillance du ciel. À Ajaccio, des défaillances graves à l'aéroport selon le préfet de Corse, des audits ont révélé des manquements dans le filtrage des passagers et l'inspection des bagages.
Des cas de dengue se multiplient.
Le virus est transmis par les moustiques tigres dont la présence sur le territoire s'étend. Le nombre de cas recensés depuis le début de l'année est inédit, surtout à quelques mois des Jeux, Rémi Pfister.
Près de 1700 cas recensés, c'est 11 fois plus qu'à la même période l'an dernier. Un patient sur 5 avait plus de 65 ans, beaucoup faisaient partie de la même famille et tous ont été importés. Autrement dit, les personnes infectées ont été piquées en dehors de France métropolitaine, en majorité en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Et pour cause, l'Amérique latine et les Caraïbes font face à une flambée épidémique inédite. Plus de 4 millions de cas ont déjà été recensés, c'est 3 fois plus que l'an dernier. Fièvre, toux, courbature, les symptômes ressemblent à une grippe saisonnière et peuvent être dangereux pour les personnes fragiles. À ce stade de l'année, l'enjeu des autorités sanitaires est donc de repérer au maximum les malades pour briser les chaînes de transmission. C'est-à-dire éviter que des personnes infectées soient piquées par des moustiques tigres qui iront ensuite en contaminer d'autres. La tâche devient de plus en plus difficile. Le moustique colonise désormais 78 départements contre 59 il y a 5 ans. Et la venue de milliers de visiteurs pour les Jeux Olympiques multiplie aussi les risques de dengue importée.
Rémi Pfister, une journée de commémoration du génocide arménien est organisée aujourd'hui. Un contexte particulier après la guerre avec l'Azerbaïdjan qui a conquis cet automne la région du Haut-Karabakh. Les deux pays ont annoncé hier entamer des discussions pour définir la délimitation de leurs frontières communes. Une démarche saluée par Taline Papazian, politologue et enseignante à Sciences Po Aix.
Là, il s'agit, si vous voulez, pour le gouvernement arménien de faire un pas en avant dans d'abord l'apaisement régional, faire ce qui est en son pouvoir pour éviter une reprise de guerre. Et on a vu dans les dernières années que l'Azerbaïdjan cherche des prétextes pour pouvoir reprendre des hostilités et l'Arménie ne souhaite pas que ceci puisse être possible. Elle fait donc ce que certains interprètent comme une forme de concession, à mon avis à tort, car s'il y a véritablement une méthodologie et un accord sur des principes juridiques pour démarrer la délimitation, c'est une avancée, il faut la prendre comme telle.
Propos recueillis par Diane Berger. Si vous êtes à Paris aujourd'hui, un spectacle impressionnant. Deux avions vont survoler la capitale et l'un d'entre eux, entre 15h et 16h, va larguer 15 parachutistes au-dessus des Invalides. C'est à l'occasion de la tournée des drapeaux olympiques et paralympiques.
On va donc regarder vers le ciel grâce à cette information. Merci Charles Bonner, c'était le journal de 6h30. Pression maximale des contrôleurs aériens en grève demain et potentiellement tout le week-end de l'Ascension. C'est la une du journal de l'économie. Dans 10 minutes, on parlera aussi de la simplification. Coup de fil au secrétaire général de la CPME à 7h10. D'abord une nouvelle...